Salut Kevin, comment ça va?
Salut Hugo, ça va bien et toi?
Ça va bien aussi. Ben en fait, ça va bien malgré la température, parce que là, c'est ça, le printemps arrive, repart. Là, on se croirait en fin octobre. Mais bon, on est en fin avril quand même. Il y a de l'espoir.
Oui, c'est ça. Aujourd'hui, je suis allé faire des courses, puis là, je me disais, est-ce que je sors mon manteau d'hiver? Il fait quand même froid. Finalement, je suis juste allé en hoodie, puis
Ouais.
j'ai survécu.
Ben écoute, selon mon téléphone, en ce moment, il fait 4 degrés, puis dehors, il pleut. Donc, ben ça, je peux le voir sur mon téléphone, mais
Ouais.
bref, 4 degrés, c'est pas très chaud.
Non, c'est
Mais
ça,
bon,
c'était pas chaud chaud.
on est bien installé à l'intérieur. Heureusement, le podcast n'est pas un Vox Pop ou un podcast sur place. On est bien à l'abri dans nos bureaux respectifs. Kevin, depuis qu'on se connaît, tu m'as appris quelques expressions quand même, dont l'expression grosse vue. Est-ce que tu aimerais nous résumer un peu ce que ça veut dire grosse vue?
Je pense que quand j'étais jeune, mettons, années 80, c'était beaucoup ça qui était utilisé au Québec pour parler d'un film. On parlait d'une vue. Peut-être
Ouais.
même encore plus vieux qu'années 80. Tu sais, c'était plus les personnes plus âgées qui utilisaient ça. Puis ça m'est comme resté. Puis je l'utilise assez régulièrement. Puis une grosse vue, c'est un film. Tu sais, c'est vraiment un super bon divertissement. C'est un peu. Ça peut être similaire à ce que j'appelle aussi un film de papa, tu sais, genre de film que, mettons, j'aurais écouté quand j'étais jeune avec mon père, puis
Ouais.
souvent des films d'action, des films avec du paw-paw, puis des tapes sur la gueule, puis je
Oui.
pense aujourd'hui on a droit à ça.
Ben, écoute, moi j'ai écouté le film hier, film dont on va parler aujourd'hui, qui est Monkey Man. Évidemment, si vous avez vu le titre de ce nouvel épisode de Rembobinage, bien sûr, vous êtes au courant de ce qu'on a regardé cette semaine. Et je t'ai envoyé ce petit message sur Twitter pendant que j'étais en train d'écouter. Et tu m'as répondu en majuscule, grosse vue. Et moi, j'avais envie de surenchérir. J'ai pas répondu, je vais le faire maintenant. J'ai énorme vue.
Ouais.
Parce que, bien honnêtement, Monkey Man, je sais qu'on est juste le 30 avril, mais je te dirais que c'est au moins le meilleur film d'action de l'année, sinon des quelques dernières années. Je regardais ça, puis. Il y a des moments où je sautais dans ma chaise tellement je trouvais ça extraordinaire, tellement des fois c'était excessif, tellement des fois c'était over the top, comme on dit en bon français. J'ai vraiment adoré et je pense que toi aussi.
Oui, je suis vraiment d'accord. Tu disais que tu sautais sur ta chaise. Moi, quelque chose que si j'ai le goût de faire ça pendant un film d'action, c'est bon signe.
Oui.
C'est que pendant les combats, on dirait que j'ai le goût de boxer avec mes poings. C'est comme si j'étais vraiment dans l'action, là. Puis
Ouais.
ça, c'est, tu sais, c'est, je disais film de papa, mais film de petit gars aussi. Tu sais, c'est
Oh oui.
moi, genre, quand j'étais enfant, j'écoutais des films d'action. Puis des fois, je me levais du divan. Puis c'est ça, je boxais dans les airs, je donnais des coups de pied. C'était comme, il y a quelque chose qui est très viscéral là-dedans, là.
Oui, ben, je peux dire tout de suite que mon père m'aurait jamais laissé écouter Monkey Man. J'avais écouté ça, c'était sorti à l'époque. Mon père a jamais été très film d'action, ou peut-être qu'il l'a bien caché pendant 37 ans. Je pourrais pas te répondre là-dessus. Mais effectivement, moi, le film s'est terminé et je suis allé faire des haltères un peu dans mon bureau. Mais écoute, c'est particulier parce que bon. On va parler de Dev Patel, qui est, dans ce cas-ci, l'acteur principal, scénariste, co-scénariste et réalisateur, son premier long métrage comme réalisateur. Mais avant ça, j'étais voir les critiques. Et sur IMDb, là, j'ai pas fait le tour de tous les sites de critiques, mais j'ai l'impression que les gens ont soit beaucoup aimé, soit vraiment détesté. Et j'ai une petite idée pour laquelle ils ont détesté, parce que bon, il y a une place assez importante accordée aux personnes trans dans ce film-là. Je pense que ça fait, en tout cas, dans une des critiques que j'ai lues, ils notaient ça comme point qui disait ça n'a pas de bon sens, des hommes en robe ou je sais pas quoi, là. Après, à ceci, je me suis dit, évidemment, on est tombé sur quelqu'un comme ça. Mais il y a quelques points qu'on va pouvoir amener tout à l'heure, on va pouvoir en discuter, avec lesquels je suis pas en désaccord, mais je pense que dans le contexte, c'est à la fois un excellent premier film comme réalisateur, c'est aussi un excellent film où Dev Patel, bon, c'est pas son premier film comme personnage principal, on l'a connu dans Slumdog Millionaire en 2008, ça fait déjà quelques années. Puis il avait fait aussi plus récemment le Green Knight en 2021, mm-hmm. qui était le personnage principal. Mais je pense que dans ce film-ci, c'est vraiment lui qui va mettre de l'avant les thèmes qui sont importants pour lui. En tout cas, je ne sais pas trop qu'est-ce que tu en penses, mais j'ai l'impression que c'était un peu son vrai premier film, en un sens.
Ben, dans un sens, oui, parce que c'est ça, c'est... Tu disais, il est co-scénariste, réalisateur, il est aussi producteur du film. Tu sais, à la base, c'était un film indépendant que j'imagine qu'il y avait des partenaires, tout ça, mais c'était pas un film qui était fait pour un studio. Puis on sent que c'est un film vraiment personnel. Ça se passe en Inde. Lui, il est d'origine indienne. Puis c'est beaucoup la religion, la culture. Puis tu sais, tu disais les personnes trans. Puis je pense que je suppose que Dev Patel est quelqu'un de quand même progressiste. Puis que pour lui, oui. c'est important de se battre pour les droits des minorités. Puis dans les thèmes du film aussi, c'est un film qui dénonce la corruption. Puis la police, la corruption policière, tout ça. Puis les autorités, tout ça. Fait que il y a beaucoup d'affaires dans ce film-là, puis je pense pas que, tu sais, c'est pas des fois un acteur peut accepter un rôle, puis dans le fond, il voulait avoir le chèque à la fin du contrat, puis c'est pas vraiment, il était pas vraiment impliqué dans le projet, mais là, pour toutes les raisons que je viens de dire, clairement, Dev Patel voulait faire ce film-là, mm-hmm. et il voulait faire ce film-là en particulier pour tous ses thèmes, puis aussi, un autre truc, Je lisais que Dev Patel, lui aussi, quand il était un petit gars, c'était un gros fan de films d'action.
Oui, ça
qui
paraît.
A des souvenirs de quand il était jeune, que ses parents écoutaient des films de Bruce Lee, puis que justement, il a fait « Wow, OK, ça a pratiquement changé sa vie. » Il s'est mis à avoir des posters de Bruce Lee dans sa chambre. Mm-hmm. Fait que sûrement que, même si on l'a vu dans d'autres types de rôles depuis le début de sa carrière, c'était sûrement un fantasme pour lui de enfin devenir un héros d'action.
Voilà, absolument. Je vais quand même nous résumer l'intrigue rapidement. Puis en fait, c'est particulier parce que le personnage principal n'a pas de nom, il est surnommé Kid, mais c'est son vrai. Appelons-le Dev parce que c'est son vrai nom. Dev, qui est un enfant grandi dans la jungle, je pense, en tout cas une place assez reculée là en Inde, et est avec sa mère. On voit pas de père, en tout cas, semble être élevé seulement par sa mère. Et à un moment donné, les autorités viennent pour prendre cette terre-là, puis de dire on vous expulse pour, je pense qu'ils disent c'est une terre sacrée ou je sais pas trop quoi. En tout cas, on récupère la terre, puis on vous expulse. Donc, vous, les villageois qui êtes là. Et les villageois, évidemment, ne sont pas d'accord. Ils disent on a toujours habité là, vous n'avez pas d'affaire à être ici, bon, non. Et les autorités, bon, tu parles de corruption policière, la police débarque, tire dans le tas, met le feu, tue des gens, et la mère du personnage principal est tuée par le chef de la police. On frôle d'ailleurs le viol, en tout cas l'agression sexuelle. Ça va pas jusque-là, heureusement, mais bon, quand même, le chef de police tue la mère. Et c'est une histoire de vengeance, en fait. C'est aussi simple mm-hmm. que ça, entre guillemets. Une histoire de vengeance, c'est-à-dire le chef de police des années, une vingtaine d'années plus tard, travaille pour une espèce de pas un prêtre, une espèce
un
de
yogi, prédicateur. Genre?
Pardon, ouais, c'est ça, un yogi, une espèce de gourou qui dit oh moi je suis j'ai pas d'allégeance politique, je suis un nanana, mais finalement qui aime l'argent, qui aime les partés, qui s'aligne du côté d'un parti nationaliste en Inde. Puis d'ailleurs ce film-là devait sortir sur Netflix, ça avait été commandé par Netflix et je sais pas, on sait pas exactement ce qui s'est passé. J'ai lu là un petit peu en ligne comme quoi parce que c'est des grosses critiques contre, encore une fois, la corruption des élites, le nationalisme indien, la violence sectaire en Inde. Il y a beaucoup de séquences dans le film où les musulmans sont massacrés par les hindous. Et ce sont toutes des situations qui se produisent en ce moment en Inde, en raison, entre autres, du parti du premier ministre Narendra Modi qui alimente ce feu-là du nationalisme. Est-ce que Netflix, qui vient d'arriver en Inde, a voulu préserver son marché en disant, finalement, on ne prend pas ce film-là, puis va vendre ça ailleurs?
Ben, je pense que ça doit être quelque chose du genre, parce que moi, selon ce que j'ai lu, le film qui avait été produit à la base de façon indépendante avait coûté 10 millions de budget, Après ça, ils l'ont vendu à Netflix pour 30 millions. Donc, ils faisaient un bon profit.
Ouais.
Mais Netflix a mis quand même beaucoup d'argent. Il est resté sur une tablette pendant genre 2-3 ans.
Wow.
Puis, finalement, c'est Jordan Peele, qui est un réalisateur qu'on connaît pour Get Out. Puis, plus récemment, c'était quoi son film?
C'était pas Nope?
Nope, ouais, c'est
ouais,
ça.
Voilà.
D'une façon ou d'une autre, il a vu le film, puis il est tombé en amour, puis il a dit « Ce film-là peut pas rester sur une tablette. Puis en plus, faut pas que ça sorte sur Netflix, faut que ça sorte en salle.
Ouais. »
Il a comme racheté le film, puis selon ce que j'ai vu, il l'a racheté pour 10 millions. Donc, Netflix a comme perdu 20 millions pour pas sortir un film. Fait qu'il y a quelque chose un peu... clairement, il y a peut-être, comme tu dis, il y avait des raisons politiques de pas vouloir sortir le film, parce que c'est pas une très bonne décision d'affaires.
Non, puis je sais que, bon, Netflix, il y a une formule Netflix qui des films puis des séries qui finissent un peu par se ressembler, mais de temps en temps, on a des très belles surprises. J'ai pas vu Ripley, la série, la mini-série qui est sortie récemment, mais qui a l'air d'être très bien, en filmant en noir et blanc avec Andrew Scott, entre autres, qui joue le personnage principal. Puis de ça, des fois, t'as des belles surprises, puis tu dis, OK, Netflix est encore capable de mettre de l'argent dans des projets intéressants, dans des trucs audacieux. El Conde, qu'on avait vu récemment,
ouais.
C'est un film sud-américain avec Augusto Pinochet qui est un vampire. C'était sur Netflix. Il y a des, justement, puis ça m'avait jeté à terre à quel point c'était différent, puis c'était audacieux. Donc, bon, j'aurais été bien content de voir Monkey Man sur Netflix en me disant ça permet de rejoindre un plus vaste public. Ceci étant dit, tant pis pour eux. Je trouve que, en tout cas, on connaît pas évidemment le fond de l'affaire, mais c'est au moins ce film-là a pu sortir effectivement, puis bon, distribué par Universal, c'est quand même pas deux festivals et quart, puis après ça disparaît là.
Non, c'est ça. Il est sorti en salle, puis il a rapporté plusieurs fois son budget au box-office, donc on peut parler d'un succès là, pour un film qui était pas un méga blockbuster à la base.
Oui, oui, absolument. J'aimerais ça revenir un peu, tu sais, tantôt je disais, j'avais lu quelques critiques, puis il y avait des choses que je trouvais pertinentes, dans le sens où le principal étant que si on a déjà vu un film avec une histoire de vengeance, on sera pas jeté à terre par le scénario de Monkey Man. Je pense qu'on peut s'entendre là-dessus quand même. Là.
Ouais, c'est sûr. Mais tu sais, en même temps, tu sais, de dire « OK, on a déjà vu un film de vengeance », oui, tu sais, oui. Ça reste un film de genre. Par définition, un film de genre, ça respecte certains codes. Il peut même avoir une formule, quelque chose. Mais ce qui distingue Monkey Man, c'est justement... On a vu des films de vengeance, mettons, américains ou européens, ou peu importe. Oui. Mais dans ce cas-ci, c'est purement indien.
Mm-hmm.
Donc, tu sais, comme je disais, tu sais, la culture, la religion... la corruption des élites, tout ça, il y a quand même beaucoup de détails autour de l'histoire qu'on connaît peut-être déjà, mais qui sont, je sais pas, qui sont pas nécessairement des choses qu'on voit constamment, là.
Non, puis notamment, pis ça, on n'est pas très longtemps là-dedans, puis je pense que c'est d'ailleurs le montage, je sais pas qui s'est occupé du montage, il y a trois noms, là, mais je les connais pas, là, selon la fiche Wikipédia. Le montage est extrêmement nerveux. Dans ce film-là. C'est un film d'action, on n'a jamais le temps de s'ennuyer. Je pense qu'il y a un moment, un bref moment où ça se calme un peu, à peu près vers le milieu du film, après ça repart assez rapidement. Mais donc, jamais le temps de s'ennuyer et les plans sont jamais très longs. Et ça fait en sorte que c'est un film que je trouve extrêmement efficace dans ce qu'il montre, notamment, si on parlait des élites, de la corruption, tout ça, on a une vision de la pauvreté indienne. Bon, supposément que le film se passe dans une ville, en fait, j'ai vérifié que ça n'existe pas, la ville de Yanata, mais en fait, c'est Mumbai. Là. Donc, ça montre ça, la pauvreté, et un clash, oui, la pauvreté, il y en a ici, puis de plus en plus, malheureusement, puis bon, moi, je me souviens d'un... Quand j'étais en vacances à Vancouver, déjà quelques années, j'avais été jeté par terre de voir la quantité de gens dans les rues, puis pas juste des gens dans la rue, mais des gens qui prennent la drogue en plein air, puis tu sais, c'était vraiment de la misère.
Ben,
mais
ça commence pas mal à être ça à Montréal aussi. Là.
Oui, mais tu sais, c'est pas... Je regardais dans le film, puis c'est très court ce qu'on voit dans le film, Mais c'est pire, là. C'est des choses, tu sais, les gens dorment par terre par dizaines. Les gens se promènent dans les rues, puis t'as les fameux feux dans les poubelles, là, que tu penses juste voir à Détroit ou, bon, d'autres villes pauvres des États-Unis, peut-être. Puis là, c'est comme, non, c'est à Mumbai, une des plus grosses villes de l'Inde. Mais c'est ça, t'as l'espèce de bidonville qui est juste à côté du club ultra exclusif où les méga riches se payent de la drogue. Puis donc, encore une fois, on n'est pas trop là, on n'est pas très longtemps là-dedans, mais juste assez pour qu'on comprenne d'où le personnage vient, c'est quoi ses motivations. Puis tu sais, même avant qu'on apprenne que c'était une histoire de vengeance, je comprenais déjà l'idée. Je comprenais les motivations du personnage, c'est-à-dire le gars, il vient de la pauvreté, il se bat pour des peanuts dans un ring avec son fameux masque de singe, puis pour survivre. Et là, après ça, t'as une histoire, c'est une histoire de vengeance par-dessus, mais juste l'idée de, OK, le gars, il vient de la rue, puis petit à petit, tu sais, il se trouve une job dans l'espèce de justement dans un de ces clubs-là exclusifs, puis on comprend qu'il veut atteindre un objectif. Déjà ça, je me dis, OK, le film aurait été déjà bon avec ça, mais en plus, on rajoute la question justement de t'as tué ma mère, bon, un peu comme dans The Princess Bride, là, t'as tué mon père, t'es parti à mourir.
Ben, moi, ça, la quête de vengeance, la façon qu'elle est emmenée, ça me faisait penser à Il était une fois dans l'Ouest, le spaghetti western de Sergio Leone, que, me semble, si je me souviens bien, ça fait un petit bout, je ne l'ai pas vu, on sait pas trop c'est quoi la motivation du protagoniste pendant une bonne partie du film, on voit juste. Des petits flashs rapides, puis éventuellement, il y a un plus long flashback, puis on comprend que c'est une histoire de vengeance, tout ça. Puis dans Monkey Man, c'est pas mal ça, parce que au début, quand tu résumes le scénario, tu l'as comme remis un peu chronologique, ouais. Mais dans le film, ça prend à peu près la moitié du film pour vraiment comprendre c'est quoi la motivation de Monkey Man, parce que avant ça, on voit vraiment juste des petites images furtives, mais à peu près au milieu du film, quand il se retrouve dans le temple, puis qu'il, à un moment donné, je pense, il prend des hallucinogènes, puis tout ça, ouais. Puis là, on voit vraiment un long flashback qu'on comprend quand son village s'est fait brûler, sa mère s'est fait tuer, tout ça, là.
Mais effectivement, puis, tu sais, c'est... On parlait tantôt de l'influence des films d'action sur Dev Patel, puis j'ai pas... fait une liste exhaustive, parce que, je veux dire, les films étaient en train de jouer, fait que j'allais pas nécessairement m'arrêter pour prendre des notes, mais j'ai vu du John Wick là-dedans, évidemment, c'est assez flagrant. J'ai vu du Rocky IV. Il y a des influences de jeux vidéo en masse aussi. Tu disais, bon, Bruce Lee, moi, je suis moins familier que Bruce Lee, mais j'ai vu aussi des références à des, tu sais, bon, cinématographie indienne, tout ça, que je connais pas, mais on voit des affiches de films d'action un peu partout, d'espèces de Bollywood, ben pas Bollywood, parce qu'il n'y a pas nécessairement de numéro chanté, là, mais tu sais, une espèce de série B, film d'action des années 80, mais version indienne, avec des gens certainement avec des très grosses moustaches, j'imagine. Donc, tout ça là-dedans, puis tu sais, on disait, on sautait quasiment sur notre chaise. Il y a des trucs là-dedans. Il y a même un petit bout, je sais pas si c'est un clin d'œil à Doom, mais il y a une caméra subjective à un moment donné. Et c'est, encore une fois, le montage là-dedans, c'est les raccords sont presque parfaits. Il y a vraiment, il y a un moment donné, tu sais, tu passes en caméra subjective, OK, là, il se passe quelque chose, le personnage prend un coup, on sort de la caméra subjective et on perd pas une seconde. C'est vraiment, je sais pas combien de temps ça a pris faire la post-prod de cette affaire-là, mais sur le plan technique, toi, t'as pensé quoi du côté technique, justement, du film?
Ben, c'est ça, tout le côté la réalisation, c'est vraiment impressionnant, vu que c'est un premier long-métrage. Dev Patel, tu sais, c'est vraiment non seulement convaincant, la première fois, j'ai vu le film deux fois, je l'avais vu en salle, je l'ai revu hier en vidéo. Puis dès la première fois, j'avais fait « Wow, pour un premier film, c'est convaincant. » Mais quand je l'ai revu, je l'ai encore plus aimé. Puis en grande partie pour les scènes d'action qui sont super bien filmées, chorégraphiées, comme tu disais, le montage, tout ça. Puis tu mentionnes John Wick. Puis j'ai souvent vu des gens comparer à dire que c'était un peu un genre de John Wick indien. Mais moi, ça me faisait encore plus penser à The Raid puis The Raid 2, qui sont des films, je crois, indonésiens. Et qui avait un peu la même démesure de l'ultra-violence, c'est super brutal, viscéral, puis souvent des longues scènes d'action, puis bon, on pense évidemment aux films d'arts martiaux en général, puis on a mentionné Bruce Lee, mais il y a quelque chose d'un peu plus brutal, comme je disais, qui me fait beaucoup penser à The Raid, de vraiment jusque où on peut aller dans le massacre, pratiquement, là.
Oui, oui, puis je me dis, bon, comment est-ce qu'ils ont réussi à avoir des effets spéciaux pratiques d'un type qui se fait rentrer, puis tu as l'impression qu'il n'y a pas de coupure, c'est pas hors caméra, c'est pas rien, c'est vraiment dans le cadre. Le type se fait rentrer, un tesson de bouteille dans la gorge, ça gicle partout. On s'excuse pour les personnes peut-être un peu plus sensibles, mais il y a des choses comme ça où quelqu'un il se bat dans la fameuse scène, il y a toujours une scène de bagarre dans une cuisine de restaurant, parce que c'est toujours parfait pour ta poche avec des couteaux, puis avec des poils, puis tu mets la tête sur le grill, puis bon, toutes ces sortes de choses. Mais ça marche, puis il y a un moment donné, quelqu'un, justement, il se fait cogner la tête, ou en tout cas, je pense que c'est Patel qui prend une porte de micro-ondes, puis qui donne un coup sur quelqu'un, puis là, la vitre de la porte de micro-ondes va fendre. Et je me dis, ça, clairement, bon, ça, c'est arrangé. Bien, en fait, toutes les cascades sont arrangées, mais à quel point, tu sais, il a fallu que tu prévoies tes affaires, puis dire, OK, il faut que tu frappes de même, ton cascadeur X, Y, Z va, tu sais, tomber comme ça, parce que tu veux pas que les gens se fassent mal, bien sûr, là. Mais, puis ça arrête pas, puis t'as t'as des changements de prise de vue, puis tout ça, mais clairement, il y a même des plans, quelques plans séquences. Je pense que je m'en souviens surtout de un, là, vers la fin du film, mais c'est ça, t'as des plans séquences aussi, puis même ça, clairement, évidemment, ça demande une préparation supplémentaire et tout ça. Donc, je veux dire, moi, j'ai pas trouvé, tu sais, à la fin des épisodes, on se demande tout le temps qu'est-ce qui aurait pu être mieux fait, ou y a-tu du... Je peux déjà dire, moi, j'ai rien vu. J'ai rien vu de raté ou de moins bon. Même le moment, puis ça, je veux pas trop donner de détails parce que c'est un petit divulgacheur, mais même le moment où il veut sauter par une fenêtre, moi, j'ai trouvé ça parfait. J'ai ri, puis c'est comme, OK, ça dure 2 secondes, on passe à autre chose. J'ai comme un peu vendu le punch, mais en tout cas. Mais... Vraiment,
c'était dans la bande-annonce, je pense.
Ah oui, en plus? C'est pas un coup punch. Bon. Tu sais, je pense que la seule place où je pourrais dire, ça aurait pu être un peu mieux fait. Je sais pas, moi, je l'ai pas vu en salle, je l'ai vu seulement en vidéo. Toi qui l'as vu en salle, est-ce qu'il y avait des sous-titres quand il parle d'autres langues que l'anglais?
Oui, quand il parle, je sais pas si c'est quoi le nom de la langue, là. On va dire entre guillemets l'indien, là, le hindi ou peu importe, c'est sous-titré, mais quand il parle anglais, non.
OK. Parce que je me dis, c'est peut-être une fois ou deux, moi j'écoute ça avec les sous-titres, parce que je suis un vieux monsieur, ou des fois le mélange audio est pas bon dans les films aussi, mais il y a des moments d'année où peut-être sans sous-titres, j'aurais mal compris ce qu'il se disait. Parce qu'évidemment, c'est des acteurs indiens, ils ont peut-être un accent plus prononcé par rapport à nous. C'est peut-être la minuscule patente qui aurait pu être moins intéressante en salle. Mais de toute façon, tu vas pas voir ce genre de film-là pour le dialogue nécessairement. Là. Mais c'est peut-être la minuscule d'affaire. Autrement, vraiment sans faute, là, du début à la fin.
Ouais, moi, si c'est drôle, j'avais, la première fois que je l'ai vu en salle, j'avais un petit bémol qui a disparu quand je l'ai revu sur petit écran. Puis, j'ai le goût de t'en parler. C'est qu'en salle, je trouvais, tu sais, le film, c'est souvent les cadrages très serrés. Il y a beaucoup de gros plans, incluant dans les scènes d'action. Puis, comme on a dit à plusieurs reprises, le montage est hyper actif. Tu sais, c'est vraiment... Parfois, on a des plans séquences, mais souvent, il y a des plans d'une demi-seconde. C'est super rapide. Puis, en salle, on dirait, vu que c'est tellement un gros écran, il y a des bouts pendant les scènes d'action qu'on dirait que j'avais de la misère à suivre parce que c'était comme trop gros puis ça allait trop vite. Fait que, tu sais, même si j'aimais beaucoup le film, ça m'avait... c'était un petit bémol que j'avais. Puis, on dirait que de le voir sur petit écran, là... C'est moins overwhelming, pour utiliser un mot français, pas vraiment. Mais je trouve pas le mot, là, mais on dirait que sur un petit écran, ça marche. Tu sais, c'est comme, vu que t'as plus une vue d'ensemble, là, j'étais capable de suivre l'action super bien, puis j'étais embarqué au bout, autant dans l'action que dans l'histoire, puis tout ça. Fait que c'est ça. J'imagine que la majorité des gens qui nous écoutent vont peut-être voir le film plutôt en vidéo, donc ça s'applique pas. Mais si vous voyez le film en salle, je dirais de pas pas s'asseoir trop près de l'écran. Peut-être essayer d'être plus dans le fond de la salle, ouais. Parce que ça bouge tellement qu'on dirait qu'il faut avoir plus une vue d'ensemble.
Ben, peut-être que Dev Patel nous a fait un téléfilm puis il nous l'a pas dit. Ça pourrait être ça.
Je sais pas.
Mais bon, je pense que ultimement quand même, un grand film. Tu sais, c'est sûr, un grand film. Dans le genre, c'est sûr que c'est un film de genre. Je suis pas en train de dire que c'est de la même trempe que le film de Robin Aubert, Tu ne seras jamais. Tu sais, c'est évidemment c'est pas le même style, c'est pas les mêmes attentes qu'on a non plus, mais je trouve ça rafraîchissant d'avoir non seulement un film qui vient d'ailleurs, qui évidemment s'inspire de ce qui s'est fait ici puis en Europe, mais un film qui vient clairement d'ailleurs, tu l'as mentionné, toute la beaucoup de culture indienne. On a très peu parlé des personnes trans dans qui sont dans le film, mais ils ont un rôle assez important à jouer, puis je trouve ça intéressant qu'on les mette de l'avant, parce que c'est une réalité qui est universelle, là. C'est pas juste ici qu'on a ces gens-là qui finalement sortent du placard de toutes, en tout cas tous les placards, et finalement obtiennent la capacité de vivre leur vraie identité. Mais bref, il y a ça, puis bon, il y a le fait aussi que autant on peut avoir des clichés du film d'action, autant d'autres clichés comme le héros se pogne la fille, on n'a pas ça. On a une très courte scène. À un moment donné, ça dure une fraction de seconde. Je pense que tu sais de quelle scène je parle, là. Qui, OK, il y a peut-être un tout petit quelque chose, c'est tout. Et j'ai trouvé ça parfait comme ça, mm-hmm. Parce que t'as pas besoin de ça dans ce film-là. Il est pas là pour l'amour de la belle-fille, il est pas là pour sauver la princesse, il est là pour tuer. Ça fait bizarre un peu, là. Que venez-vous faire ici? Ah, je m'en viens tuer. Ah, d'accord, procéder. Tu sais. Enfin. Mais, tu sais, je trouve ça intéressant parce qu'il est allé c'est ça, il est allé chercher des inspirations, mais il est capable de donner sa twist, finalement.
Ben, c'est ça, puis tu as mentionné plus tôt qu'il y a une espèce de training montage à la Rocky IV ou Rocky 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, là, peu importe, à un moment donné, puis la façon que c'est différent de ce qu'on a vu, mettons, dans les Rocky, vu que c'est un film indien, ça se passe à ce moment-là dans le temple où il y a les trans, puis il y a un joueur de, ça s'appelle un tabla, que ça ressemble un peu à un tam-tam, mais c'est comme un instrument de percussion indien. Puis pendant que Dev Patel s'entraîne avec une grosse poche de riz en frappant dedans, ben, il y a le joueur de tabla qui joue, puis là, c'est super rythmé, puis c'est vraiment des sonorités qu'on n'entend pas souvent, définitivement pas dans les Rocky. Fait que c'est le genre de détails que tu fais, waouh, OK. On prend quelque chose qu'on a vu souvent, mais on y donne une couleur différente. Là.
Oh oui, absolument. Puis je pense que c'est très bien réussi. Peut-être que ça aurait trop été dépareillé si on avait complètement enlevé ce qui est occidental, puis qu'on aurait gardé seulement, si on avait gardé seulement, tu sais, ce qui est indien. Puis je suis pas en train de dire que les films indiens sont pas intéressants, mais pour un public qui est beaucoup moins habitué de voir ça ici, ben on aurait peut-être eu une plus grande réticence en disant bon ben tu sais il va y avoir c'est ça des clichés du cinéma indien ou des choses des référents culturels qu'on comprendra pas, alors qu'ici le référent culturel est universel, c'est-à-dire les élites corrompus, les politiciens avides de pouvoir, malheureusement, il y en a partout, donc c'est ça. T'sais, ça reste universel dans ce sens-là. C'est sûr qu'il y a quelques petites touches indiennes, mais je pense que ça vient améliorer les choses plutôt que d'y nuire, là.
Oui, absolument. Puis, tu sais, moi, je vois quand même quelques films de Bollywood par année. J'aime ça aller au forum puis, de temps en temps puis voir un Bollywood. Puis, mm-hmm. Tu sais, oui, il y a des éléments que c'est leur culture, que je suis pas familier, mais souvent, on sent que tu sais la culture, entre autres, américaine, hollywoodienne, ça voyage partout dans le monde. Puis, ah oui. Tu vois un film d'action indien, puis tu sais souvent, c'est une version de Top Gun ou c'est une version de Mission Impossible, ou etc. Oui. Tu vois que les influences sont là.
Oui, absolument. Donc, bon, est-ce une bonne ou mauvaise chose? C'est un autre débat. Mais bon, j'avoue que Top Gun indien, ça pourrait être très, très intéressant, ça pourrait être très drôle aussi.
Ben, celui qui est sorti, je pense, cette année, quelque chose au début de l'année, genre en janvier, ça s'appelle Fighter, puis c'est 100% calqué sur Top Gun, en grande partie Top Gun Maverick même, mais version Bollywood. Fait qu'il y a des numéros musicaux dans le film.
Ah, bizarre. Je veux Tom Cruise avec une moustache fournie, ça serait extraordinaire. Certainement que tu... Ben, je vais te laisser prendre une gorgée de ta bière. Certainement que tu recommandes Monkey Man?
Oui, oui, forte recommandation. Comme tu as dit en tout début d'épisode, c'est... À date, en tout cas, c'est vraiment le film d'action de l'année. Puis en plus, tu sais, je pense que ça fait une demi-heure qu'on en parle. Il y a quand même des trucs culturels, puis politiques même. Il y a plein d'éléments qui font que c'est pas seulement un film d'action, mais même si c'était seulement un film d'action, c'est super efficace.
Oui, absolument. Et je sais pas si je l'ai mentionné ou pas plus tôt dans l'épisode, mais tous ces aspects-là, les aspects sociaux, les aspects culturels, les aspects politiques, ils sont présents, et tant mieux, parce que c'est intéressant, parce que ça lève le voile sur différents phénomènes là-bas, mais ils sont pas trop présents. C'est pas un cours de sciences humaines, comme dirait un de mes amis, quand... Bref, il parle d'un roman où il y a trop d'explications au début, par exemple. Il n'y a pas d'écran. Tu sais, il nous explique rien sur un écran noir au début en disant, bon, voici un résumé des 5000 ans de l'histoire indienne et plus. Là. c'est vraiment, on est direct dedans, puis on comprend. On comprend exactement qu'est-ce qu'on a besoin de comprendre. Et c'est ça, c'est des thématiques universelles. Donc, on a une source indienne, c'est un peu cliché de dire ça peut-être. On a une déclinaison indienne de ces problèmes-là, ces enjeux-là, mais ça reste ça, ça reste un fait universel. Je pense qu'en fait, c'est assez mondial de te venger des gens qui ont tué ta mère. Je pense que c'est quelque chose. Bon, non, faites pas ça, s'il vous plaît. C'est pas de bonne idée. Bref, voilà. Donc, pour moi aussi, très, très forte recommandation pour Monkey Man. J'ai 37 ans, puis vraiment, hier, j'en avais, mettons, peut-être pas 5, parce que c'était beaucoup trop violent pour un enfant de 5 ans, mais disons que j'étais ado, et là, j'avais des moments où j'avais vraiment beaucoup trop de fun. Et, tu sais, un moment où tu devrais être un peu dégoûté parce que c'est violent, c'est comme vraiment violent, mais tu te dis « Wow, c'est tellement cool parce que c'est vraiment violent. » J'ai eu plusieurs de ces moments-là hier. Je sais pas si vous en parlez à moi aussi, mais bon, ça, c'est autre chose. Ça reste du cinéma. C'est pas vrai. Ben oui. C'est pas bon. On n'ira pas, toi et moi, dans la rue, ouvrir le feu sur des gens parce qu'on a écouté Monkey Man. Le plus que j'ai fait, comme je disais, c'est de faire des poids un peu après avoir écouté le film. C'est tout. Ça s'est arrêté là.
Non, ben c'est ça. Au pire, on va s'acheter une grosse poche de riz, puis on va frapper dedans, puis ça va être ça. Là.
Voilà, exactement. Kevin, merci beaucoup d'avoir été là pour ce nouvel épisode de Rembobinage.
Merci, très le fun.
Oui, absolument. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va couvrir pour la prochaine fois. On n'a pas encore décidé, évidemment, on va s'en parler. Généralement, on s'en parle tout de suite après l'enregistrement. Merci, évidemment, à ceux qui sont là. Toujours content de faire ça pour vous. Vous pouvez rattraper tous les autres épisodes sur pioche.ca. Bien sûr, on est sur Spotify et aussi sur Apple Podcast. Je vous rappelle, bien sûr, qu'on a une section exclusive qui s'appelle La Voûte. C'est sur Patreon. Vous pouvez vous abonner. Ça coûte 5$ par mois. Ou vous pouvez aussi acheter les épisodes à la pièce dans la boutique. Ce sont des films qui ont marqué leur époque. Pour l'instant, on a 5 pour vous. Donc, on a la trilogie Batman de Christopher Nolan. On a l'excellent film Sorcerer. Et on a Terminator 1. Et d'ailleurs, il va bientôt falloir qu'on se parle, toi et moi, Kevin, pour Terminator 2. Donc, voilà. Et on va continuer, bien sûr, à vous ajouter des épisodes spéciaux. The Wire aussi, ça s'en vient bientôt. Donc, manquez pas ça. Manquez pas non plus l'excellente infolettre de Pieuvre. Chaque semaine, ça vous donne accès à l'ensemble du contenu qui est publié sur le site, y compris, bien sûr, les épisodes de podcast. C'est gratuit et c'est envoyé tous les samedis matin. Sur ce, je vous dis merci et à bientôt.